téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Il est très cher. C'est téléphone.
Il est 9h40 tout pile sur France Inter. L'instant M, ça passe vite, mais ça en dit.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Cette expérience, vous la faites chaque jour. Une information surgit et dans les heures qui suivent, sur tous les sites de tous les journaux, de toutes les télés, de toutes les radios de France et de Navarre, vous retrouvez les mêmes mots et parfois même les mêmes photos qui vous disent exactement les mêmes choses. Trois chercheurs ont décortiqué 2,5 millions d'articles publiés en ligne courant de l'année 2013, mettant à jour pour la première fois de manière strictement scientifique ce qu'on pourrait appeler tout simplement le copier-coller de l'info. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Avec vos confrères, vous publiez l'information à tout prix. Vos confrères, c'est Nicolas Hervé et Marie-Luce Vio. Et c'est paru aux éditions de l'INA.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors avant de vous interroger sur ce sujet dont on fait tous l'expérience, je l'ai dit chaque jour, Julia Cagé, j'aimerais qu'on revienne sur le choc qui a frappé hier France 2 et Le Figaro. Trois journalistes français pris dans l'explosion d'une mine à Mossoul. Samuel Forêt, correspondant pour Le Figaro. Véronique Robert, très grièvement blessée et transférée aujourd'hui à Bagdad. Stéphane Villeneuve, lui, y a trouvé la mort. Ces deux derniers tournaient pour envoyé spécial. Jean-Pierre Canet est rédacteur en chef de l'émission. Il nous rappelle qu'avec les trois journalistes français, il y avait sur place un confrère kurde de 41 ans pour les guider, pour leur traduire ce qu'il recueillait comme témoignage et comme information sur place. 41 ans, Bakhtiar Haddad, il est mort lui aussi. Jean-Pierre Canet, il était votre ami. Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, avant de vous parler de Bakhtiar, évidemment, je voudrais bien sûr vous dire que, comme vous l'avez dit, c'est un choc. Et puis, on a toutes nos pensées pour les familles de nos confrères. On attend évidemment des nouvelles de Véronique et puis de dire qu'on est en contact permanent avec les familles, c'est un choc, c'est clair et net. Je voulais simplement vous dire que c'est pas des têtes brûlées qu'on a envoyées en Irak, c'est des gens très très expérimentés. Stéphane Villeneuve, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Véronique aussi, ils ont fait tous les conflits, tous les terrains, Sarajevo, Rwanda, etc. Syrie, évidemment. Voilà, donc c'était pas des têtes brûlées, c'était des gens très aguerris, prudents et qui faisaient leur boulot aussi professionnellement que discrètement.
Quand on est très aguerri, justement, on travaille, qu'on soit aguerri ou débutant, toujours avec ce que vous appelez dans votre jargon un fixeur. Et ça, c'est absolument indispensable. Ouais. Ce sont des gens dont on parle peu chez nous quand on sort une info et quand on ramène un reportage.
Ouais, Bakhtiar Haddad, Sonia, si vous vouliez faire une émission spéciale sur Bakhtiar dans votre studio, vous arriveriez pas à remplir. Enfin, je pense que le studio serait trop petit pour remplir, pour faire entrer tous les journalistes qui ont travaillé avec Bakhtiar. Il a travaillé depuis plus de 15 ans pour toute la presse française. Ouais, je pense à nos confrères Benoît Cristal, TF1, à Étienne Monin, par exemple, à Radio France, à Arnaud Comte, à France 2, à Jérôme Bonny. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec lui au début des années 2000. Bakhtiar, c'était non seulement un fixeur qui connaissait pas. Donc fixeur, c'est quelqu'un, effectivement, c'est un guide, c'est un journaliste en fait, c'est un guide sur le terrain qui sont nos yeux, nos oreilles, notre cerveau. Il connaît les subtilités du terrain, il sait anticiper les dangers. Bakhtiar a couvert toute la guerre depuis 2003. C'était quelqu'un qui était un Kurde, qui était très indépendant politiquement. Par ailleurs, il a toujours été, ça lui a même valu d'ailleurs de venir un an en France à la maison des journalistes en 2008 parce qu'il avait un tout petit peu trop enquêté sur le comportement des Kurdes contre les chiites à un moment donné en Irak. C'est un frère qui est parti pour beaucoup d'entre nous hier. C'est quelqu'un sans qui on peut pas travailler. Il faut bien que les auditeurs se rendent compte que parfois ils ont l'impression que dans ces moments-là qu'on parle trop de nous, mais en l'occurrence sans des gens comme Bakhtiar, on n'a pas d'information indépendante, on ne sait pas ce qui se passe. Bakhtiar, j'insiste là-dessus, il n'a jamais été affidé, il n'a jamais été dans tel ou tel camp. Il s'est toujours, par exemple, le PDK au Kurdistan est parti au pouvoir, qui est très présent, qui a beaucoup de pouvoir. Il a toujours tenu à distance, et c'est pas facile. Voilà, c'est un grand homme qui est parti hier.
Bakhtiar Haddad qui a été blessé, d'ailleurs, sur le terrain, au cours d'un.
L'année dernière.
Oui.
Écoutez, il était venu en France aussi, on l'avait. On était quelques confrères, pas mal, beaucoup de tous ces, ses compagnons de travail s'étaient un peu organisés pour l'accueillir ici. Il avait été soigné en France. C'était un grand amoureux de la France. Il adorait le foot, par exemple. On a eu beaucoup de bons moments. Puis c'était quelqu'un sur les terrains de guerre qui savait toujours vous faire marrer. Ça, c'est important aussi. Il gardait toujours ce sens de l'humour. Enfin, je sais bien, on a l'impression de dresser parfois un portrait idéal. Il y avait des défauts, Bakhtiar, évidemment, mais c'était un mec super. C'était quelqu'un qui mettait de la joie, même quand c'était dur. Et qui mettait beaucoup de professionnalisme. Il a sauvé quelques-uns d'entre nous en anticipant les dangers. Et puis effectivement, il était blessé l'année dernière. C'était quelqu'un de très précieux. Je ne suis pas sûr qu'il existe aujourd'hui sur le terrain irakien l'équivalent de Bakhtiar.
Voilà, et puis vous pouvez lire aussi dans Libération un petit portrait de Bakhtiar Haddad qui est signé Luc Mathieu et qui raconte notamment qu'il traduisait dans un français absolument parfait le récit des horreurs de la vie sous l'État islamique et qu'en même temps qu'il traduisait, il aidait à porter les blessés. Voilà, on voulait dire un mot de Bakhtiar Haddad, 41 ans, qui est mort hier aux côtés de Stéphane Villeneuve qui était parti pour vous en reportage pour Envoyé spécial et puis évidemment... On attend des nouvelles de Samuel Forêt et puis surtout de Véronique Robert qui a été très grièvement blessée. Merci beaucoup Jean-Pierre Canet. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Voilà, parfois Julia Cagé, les informations et le menu de l'émission se télescopent. Vous vous dites l'information à tout prix et là on voit que l'information, quand on veut la produire de manière originale, eh ben elle a un prix. Le prix c'est d'abord de faire travailler des journalistes, de les envoyer sur le terrain et parfois ça se paye très cher. C'est rare mais malheureusement ça arrive. Donc ce petit livre que vous avez fait paraître aux éditions de l'INA est le fruit d'un travail associant trois chercheurs. Vous êtes accompagné, donc je l'ai dit, de Nicolas Hervé et de Marie-Luce Viau. Vous avez travaillé sur l'année 2013. Vous avez travaillé sur l'homogénéisation galopante de l'info sur Internet. Et ça, encore une fois, c'est un ressenti au jour le jour. Hein. C'est pas un constat scientifique. C'est vraiment quelque chose que nous avons vécu. Vous avez épluché l'AFP, 59 journaux, 9 chaînes de télévision, 7 radios et 10 sites d'information. Vous avez décortiqué une somme de 2 548 634 documents précisément. Soit une moyenne de 7000 articles par jour. Et encore, on est en 2013. Et encore, vous avez mis de côté les réseaux sociaux. Hein. C'est important de le préciser. 2013, ça nous paraît très loin et très flou aujourd'hui. Mais il suffit de vous faire entendre comme ça. Deux des événements les plus médiatisés de l'année. Et l'année 2013, elle va vous revenir immédiatement en tête.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale qui sera largement consacrée à la mort de Nelson Mandela. Il s'est éteint hier soir à 95 ans dans sa maison de Johannesburg.
25 ans que la France n'avait pas connu, pareille catastrophe ferroviaire. L'intercité 36-57 devait assurer la liaison Paris-Limoges. Il s'est arrêté à Brétigny-sur-Orge en Essonne. Des rames sorties des voies, des wagons couchés, littéralement déchiquetés. 6 morts et 30 blessés selon un dernier bilan. Les causes toujours inconnues.
France Inter. Et en lisant votre livre, Julia Cagé, je me suis dit qu'il y avait une question qu'on ne se posait même plus. Qu'est-ce qu'un événement ? Parce que c'est la question que pose en filigrane finalement cette étude. Qu'est-ce qu'un événement ? Un événement médiatique ?
Oui, justement, la question c'est est-ce qu'un événement est un événement médiatique ? Est-ce qu'un événement, par définition, est une construction médiatique ou est-ce qu'un événement existe
en dehors de sa médiatisation ?
En dehors de sa médiatisation, on a énormément lu sur le sujet, on est retourné aux philosophes, on a lu Foucault, mais à l'arrivée, nous, ce qu'on a fait, parce que vous dites qu'on a étudié plus de 2,5 millions de documents, ce qui est vrai, en fait, on l'a fait de manière informatique,
oui,
en utilisant des algorithmes, et Nicolas Hervé comme Marie-Luce Viau travaillent tous les deux à l'Institut National de l'Audiovisuel visuel et développe ces outils depuis des années. Ils les mettent au service aujourd'hui des sciences sociales, ce qui est extrêmement précieux. Mais ce qui nous a frappé en fait dans cette étude, c'est qu'on a trouvé qu'en moyenne, il se passait autour de 78 événements par jour.
Et que c'est relativement stable.
Et c'est relativement stable. C'est même complètement stable, on va dire, autour de 70 et 80 événements par jour. Et moi, j'aime beaucoup ce mot de Baudrillard qui parlait de la grève des événements, du fait des médias, il n'y a jamais grève des événements. Vous n'avez jamais un matin sur France Inter à la matinale où Patrick Cohen arriverait et dirait, bah, écoutez, ce matin, on va écouter un peu de musique.
Il n'y a rien.
Parce qu'il ne s'est rien passé. Et c'est ça qui est vraiment
Et quand on dit événements, c'est, vous les avez classés hein, par ordre d'apparition, c'est massivement de la politique, ensuite de l'économie. On va dire en troisième position police-justice, hein, et puis du sport. Mais ça va jusqu'à la météo, hein, tout ce qui fait événement. Alors, grâce à ces algorithmes, vous êtes d'abord en mesure de déterminer qui est le newsbreaker. Le newsbreaker, c'est le nom que vous donnez au premier média qui sort l'info. Et ensuite, à partir de ça, vous étudiez la vitesse de propagation en ligne, c'est-à-dire la façon dont cette information sortie par un média va se dupliquer absolument partout.
Et ça va extrêmement vite.
Oui.
C'est là qu'on a été extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'on montre qu'en moyenne, si on a une moyenne en général, il faut 3 heures pour qu'une nouvelle se duplique. Mais en fait, dans plus de la moitié des cas, ça prend moins de 25 minutes et parfois ça prend simplement autour de 200 secondes. Pourquoi c'est intéressant ?
Vous dites un quart des événements en seulement 230 secondes sont dupliqués sur tous les sites d'info et 10% en 4 secondes.
Alors, 4 secondes. 10% en 4 secondes, ça vient en grande partie du fait que de nombreux sites internet aujourd'hui ont imbriqué des briques de l'AFP. C'est-à-dire que l'agence France Presse va publier une dépêche. Nous, on a la date exacte de publication de la dépêche de l'agence France Presse. En fait, ça va se publier automatiquement sur un certain nombre de sites d'information sans même qu'il y ait de réaction humaine
derrière. Il n'empêche que pour nous,
ça,
lecteurs internautes, c'est exactement l'effet que ça fait. C'est-à-dire que c'est instantanément les mêmes mots qui remplissent tous les sites d'info. Et vous précisez quand même que souvent, il faut un gatekeeper. Donc ça aussi, c'est dans votre jargon, c'est-à-dire que
vous on n'a pas fait que des anglicismes dans le livre.
Non, mais vous donnez par exemple l'exemple du Dauphiné libéré qui est assez rigolo avec ce casse dans une bijouterie qui s'est fini par un vol de chocolat.
Oui, alors ça, c'est typiquement un événement qui a priori n'aurait pas dû en être un. Vous avez deux cambrioleurs qui au début du mois de janvier 2013 font un casse dans une bijouterie, puis je sais pas, après ils se disent tiens, on n'aurait pas dû faire ça, et ils ramènent le butin à la bijouterie, ils offrent en même temps une boîte de chocolat. Personne n'en parle. Sauf le Dauphiné libéré. Jusqu'à ce que le lendemain, vous ayez une radio qui fasse un petit billet dans la matinale sur ce sujet, parce que typiquement, début janvier, en général, il n'y a pas beaucoup d'événements. Donc il faut bien trouver de l'information dont parler. Et à partir de ce moment-là, tout le monde se met à en parler.
Voilà, le JDD, Europe 1, le Huffington Post, Sud-Ouest, BFM TV, Métro. C'est-à-dire, en fait, il faut franchir la porte d'un média de référence et une fois qu'on est dans le média de référence, hop, tout le monde copie.
Oui, alors là, c'est vrai, mais le cas du Dauphiné est un peu anecdotique. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les problèmes de réputation et les problèmes même politiques qui font que qu'est-ce que un fait, quelque chose qui se passe, finalement va donner lieu à du traitement médiatique. Et ce qui est extrêmement intéressant autour de ça, c'est par exemple le cas d'un média comme Mediapart. Mediapart aujourd'hui a acquis une réputation solide, mais on voit qu'un média comme Mediapart, qui sort parfois des affaires, souvent il faut attendre finalement le tampon, la validation de l'agence France Presse pour que d'autres médias
le reprennent.
Et ça, c'est assez étonnant. Donc, c'est 2013. Je fais le pari qu'aujourd'hui, en 2017, finalement, il y ait plus de confiance envers Mediapart. Mais on voit qu'il y a des médias, finalement, qui ont acquis un certain statut exempté de fournisseurs de vérité, on va dire. Alors qu'il y a d'autres médias qui sont encore en train de construire leur réputation. Et puis, derrière, il y a vraiment l'enjeu politique. C'est-à-dire, veut-on parler ou de quoi ne veut-on pas
justement
parler.
C'est-à-dire que dans les différents algorithmes que vous avez manipulés, vous avez un algorithme de détection de la copie, ce qui doit être absolument formidable parce que vous enseignez aussi, si vous avez la même chose pour les étudiants, à mon avis ça va vous servir beaucoup. Vous déterminez le taux moyen d'originalité d'un article en ligne, 36%. 36%, ça veut dire que 64% de ce qui est publié est un pur copier-coller.
Oui, mais c'est pas très étonnant une fois qu'on a vu la vitesse de propagation. Les journalistes ne sont pas des génies capables de produire des milliers de signes originaux en l'espace de quelques secondes. Le problème, c'est qu'on demande aux journalistes d'aller très 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 vite, d'être très réactifs. C'est-à-dire que si un média concurrent a publié quelque chose, il faut parler de la même chose extrêmement rapidement, ce qui incite bien sûr à faire beaucoup de copier-coller. La raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'est pour dire qu'en fait, c'est un phénomène qui est relativement inquiétant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes Le Monde, que vous envoyez des journalistes sur le terrain. On a eu l'exemple tout à l'heure,
avec envoyé spécial.
Donc vous investissez beaucoup d'argent, vous investissez beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Vous allez publier un article. Si cet article se retrouve en l'espace de quelques secondes à l'identique sur le site internet de tous les médias concurrents, pour le citoyen consommateur, entre guillemets, c'est complètement indifférent d'aller sur le site du Monde, sur le site de France Info, c'est sur ça. Le site de France Inter, sur le site du Figaro, sur le site de Mediapart.
On s'en fiche du moment qu'on a l'info du jour.
Et du coup, quel est finalement le retour sur investissement pour le Monde? C'est ça le danger aujourd'hui. En fait, on est rentré dans une sorte de cercle vicieux où, comme tout le monde se copie-colle, chacun perd d'une certaine manière une partie de ses incitations à produire de l'information originale. Et c'était une des choses qu'on voulait mettre vraiment sur la table avec ce livre.
Mais surtout que vous pointez quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire que vous dites que la réactivité, le fait d'être très rapide, de donner l'information tout de suite, ça attire des lecteurs, ça attire du trafic, ça c'est bénéfique pour la part d'audience d'un média. Mais qu'en revanche, le média ne tire aucun bénéfice ou quasiment pas du fait de produire de l'information originale, d'avoir été le premier à révéler. Et en plus, vous avez en plus un algorithme supplémentaire qui est un algorithme de détection des citations. C'est-à-dire que, en fait, on copie-colle, mais on dit très peu d'où ça vient.
Oui, les médias, d'une certaine manière, se comportent très mal. Et il faut savoir que dans ce livre-là, nous, on a étudié uniquement les médias qui sont supposés être des médias producteurs d'informations originales. C'est-à-dire, il n'y a pas Google, il n'y a pas les agrégateurs, il n'y a pas les réseaux sociaux dans le livre. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle les médias ne dénoncent pas ce phénomène, c'est qu'ils ont tous recours à ces pratiques. Et encore une fois, on est rentré dans une sorte de cercle vicieux dont tout le monde aurait intérêt à sortir absolument par le haut. Ensuite, il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ce livre et deux choses sur lesquelles on veut vraiment mettre l'accent. D'une part, ce qu'on a fait dans le livre, en plus d'étudier la production d'informations, on a aussi étudié les médias eux-mêmes et notamment le nombre de journalistes.
Absolument.
Et ce qu'on montre très clairement dans le livre, et ça c'est un message fort moi je trouve dans le contexte actuel où vous avez un certain nombre de patrons de médias qui ont plutôt tendance à réduire la voilure. Ce qu'on montre dans ce livre, c'est que les journalistes en France, mais je pense que c'est valable partout ailleurs, mais que les journalistes font bien leur travail. Et que quand vous avez une rédaction avec plus de journalistes, vous produisez plus d'informations
originales.
Et plus d'informations originales. Mm-hmm. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut embaucher davantage de journalistes.
Et que moins on en a, et plus on copie-colle ce qu'il y a ailleurs.
Voilà.
Et ben forcément, oui,
forcément.
Ce qui derrière pose aussi un vrai enjeu démocratique. C'est-à-dire que derrière cette homogénéisation des contenus, il y a une uniformisation de l'information. Et puis surtout, il y a de moins en moins de gens pour faire que cette information, elle soit recoupée, travaillée, pensée, mise en perspective.
Oui, puis il y a tout ce qui n'est pas produit finalement. Il y a toutes les enquêtes qui ne sont pas menées, il y a tous les terrains qui ne sont pas faits. Je pense qu'on sous-estime énormément ce phénomène en presse locale. La presse locale aujourd'hui a énormément réduit ses effectifs, et d'ailleurs les journalistes sont les premiers à se plaindre de ça. Mais c'est inquiétant quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis.
On peut prendre l'exemple par exemple du groupe Hébra, c'est-à-dire tous les journaux de l'Est de la France, hein, du Nord au Sud, toute la moitié Est, c'est des rédactions qui ont été très appauvries pour le coup.
Ah oui, et puis alors le groupe Hébra, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que non seulement ils ont énormément appauvri leur rédaction, mais ils ont créé finalement leur propre petite agence de presse parisienne. D'ailleurs, encore une fois, contre l'avis des journalistes, ça a été imposé par l'actionnaire, ce qui fait que vous avez une homogénéisation complète, non seulement sur Internet, mais aussi d'une partie du contenu papier sur toutes les questions qui ne sont pas les questions locales. Et si vous regardez les sites Internet du groupe Hébra, on voit très bien que souvent les pages Internet sont toutes rafraîchies au même moment d'en haut. Donc on enlève finalement aux journalistes la possibilité de faire leur travail. C'est inquiétant du point de vue démocratique. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, l'élection de Trump, beaucoup ont dit les médias ne l'ont pas vu venir. Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'en fait, il n'y a plus de médias locaux aux États-Unis. Au niveau des villes, ces médias-là ont disparu. Moi, je pense qu'il faut garder ce maillage qu'on a encore en France de presse locale et que quand on voit ce qui est en train de se passer, par exemple, à La Voix du Nord et quand on voit les résultat du Front National dans le nord de la France aujourd'hui, c'est inquiétant et que ça serait mieux de garder un titre fort comme La Voix du Nord qui s'est toujours opposée au Front National plutôt que de vouloir encore faire sur ce titre des économies de bout de chandelle.
Merci beaucoup Julia Cagé. Vous co-signez avec Nicolas Hervé et Marie-Luce Viau. L'information à tout prix, c'est paru Alina. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia Devine.